Vous écoutez
RMC.
RMC.
Le problème, c'est de paraître au Real de Madrid.
Aïe, 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 aïe.
Real de Madrid, j'ai dit.
Aïe, aïe, aïe,
aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe.
Et puis sincèrement, Nassim, cette mentalité failure before success, ok, wow. Moi j'en suis revenu.
20h-22h, Génération After.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à 22h, juste après ça sera l'After Foot avec Gilbert Bribois aux manettes. On va parler de la Coupe d'Europe. Hier, Lyon a été au rendez-vous de la première manche, un but partout face au Fenerbahçe. Demain, c'est Monaco qui joue son avenir européen. Alors Monaco a raté sa saison, on peut le dire. Ils rêvaient d'une nouvelle qualification en Ligue des Champions et finalement, ils sont là à jouer les barrages de Ligue Conférence. Ça sera demain soir à suivre évidemment sur RMC face au club qui appartient à Podolski, le club polonais de Gornik. Coup d'envoi à 20h. Aujourd'hui, il y avait évidemment des conférences de presse. Alors déjà, une nouvelle, on s'y attendait, mais c'est officiel. Hein. Le fiasco, malheureusement, Paul Pogba ASM s'arrête après une seule saison. Il aura très peu joué. Et malheureusement, pour les deux parties d'ailleurs, le champion du monde 2018 n'a absolument pas retrouvé son niveau. Il était très souvent blessé et donc on arrête. Vous voulez pas dire un mot?
Si. On l'a déjà évoqué sur Paul Pogba. Il fallait pour les deux parties que ça se termine assez rapidement parce qu'il n'y avait pas d'issue positive. Entre Monaco, qui a un impératif, on va l'évoquer dans quelques secondes, et les matchs de compétition, que ce soit Ligue 1, mais aussi Ligue Conférence, où là, pour le coup, Monaco est vraiment attendu. Et Paul Pogba, qui doit avoir la réalité d'un joueur qui essaye de jouer au quotidien.
Chronique d'un désastre attendu. Simplement.
Ouais, mais on avait été ému quand même par les larmes de Paul Pogba lorsqu'il a signé.
Je suis pas un grand sentimental, mais c'est vrai que c'était un soulagement pour lui. Et s'il a surtout traversé des épisodes, surtout personnels, absolument affreux qu'on peut souhaiter à personne. Mais personnellement, sportivement, j'y ai jamais vraiment cru.
En tout cas, il a mis un message, notamment sur ses réseaux sociaux, de remerciement à tout le monde, parce que effectivement, Monaco faisait un pari, mais Monaco lui tendait aussi les bras, et c'est ça, malheureusement, qui n'a pas fonctionné. Paul Pogba n'a pas pu retrouver son niveau, n'a pas pu jouer, tout simplement, parce qu'au final, on rappelle, c'est un petit peu plus de 110 minutes sur les terrains, donc c'est quasiment rien. Demain, donc, l'avenir européen de Monaco se joue, avec un nouvel entraîneur, avec aussi un groupe qui est très rajeuni pour demain, parce qu'il y a quand même beaucoup d'absents. Maxime Tillet, qui suit le club, nous a dit que Ablin, qui a reçu un coup au pied droit contre Coventry lors du dernier amical, est incertain. Golovin et Koulibaly sont suspendus. Balogun, probablement pas dispo. On rappelle qu'il a fait une bonne Coupe du Monde, mais qu'il a terminé blessé. Et Kansou Fati est gêné au mollet. Bon, quand on voit ça, déjà, on se dit c'est pas terrible.
Non, terrible, mais à mon sens, en fait, cette Europa Conference League, ça va être un réel objectif pour Monaco. Objectif.
Ah, encore un club français qui va devoir aller se retrouver en finale de Coupe d'Europe, c'est ça?
Ah, mais je pense sincèrement que l'objectif de l'AS Monaco, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition et que, premièrement, tout simplement, objectif financier. C'est-à-dire que on connaît les obligations financières nouvelles de l'AS Monaco sous justement ce squad cost ratio de l'UEFA. On connaît la minceur des revenus monégasques. Et l'année dernière, Strasbourg, en demi-finale de conférence, avait amassé 14 millions. Et que 14 millions, c'est 15% plus ou moins du chiffre d'affaires projeté de Monaco. Donc Monaco ne peut pas cracher sur cette somme. Ensuite, Monaco, suite à la réduction du nombre d'équipes en Ligue 1 et de la suppression de la Coupe de la Ligue, c'est simplement 34 matchs, avec plus la Coupe de France, avec un effectif relativement étoffé. Donc, cette Europa Conference League, ça peut être une opportunité pour Philippe Luis, qui est un entraîneur qui arrive et qui débarque en Europe aussi, de faire des ajustements tactiques. On sait qu'il a testé plusieurs systèmes en préparation et que historiquement, c'est quelqu'un qui aime jouer avec les différents systèmes tactiques. Et ensuite, c'est aussi une façon de valoriser les nombreux jeunes de l'AS Monaco qui vont avoir besoin de temps de jeu et qui sont amenés dans les années futures à jouer une part intégrante à l'AS Monaco et potentiellement de représenter des plus-values, les Cabral, les Soubert, les Sané, les Brunner, les Konaté, les Koulibaly, les Assab, il va falloir les mettre en vitrine. Donc quoi de mieux qu'une Europa Conference League avec 8 matchs, avec un risque d'élimination directe pour mettre ces jeunes en valeur. Donc sur le point de vue financier, sportif et tactique, moi je pense qu'ils doivent la jouer à fond.
T'as un objectif, c'est Istanbul. C'est la finale.
Êtes géniaux, les gars.
C'est la finale de la Conference League.
On est exigeant. Vous n'êtes pas du tout lucide aussi, j'ai l'impression.
Au nom de quoi on n'est pas lucide?
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas l'impression qu'on joue souvent des finales. J'enlève évidemment le PSG, mais j'ai pas l'impression qu'au mois de mai, à chaque fois, on soit pris par les clubs français en finale européenne.
Je pense en toute modestie que Monaco doit rien s'interdire dans ce qui est pour moi l'édition la plus relevée de cette jeune Conference League, où t'auras Fribourg qui a fait finale d'Europa League, t'auras l'Atalanta de Sarri, t'auras l'Ajax, t'auras le Retafe de Bordalas. Tout ça, ça doit t'exciter. Tu dois te dire que Monaco, t'as encore un moyen d'aller chercher un trophée pour une saison rédemption, entre guillemets. Donc c'est pour ça que pour moi c'est un objectif. Ça veut pas dire que tu vas y arriver, mais quand tu t'appelles l'AS Monaco et que t'es en conférencier et que là pour le coup t'as un tableau qui est quand même très excitant, très alléchant, tu dois te donner les moyens.
Surtout que t'as un ADN européen en fait
à l'AS Monaco. Mais enfin t'es passé de la Ligue des Champions l'an dernier à la Conference League et une fin de saison catastrophique avec trop des changements d'entraîneur.
T'as perdu contre les champions d'Europe en fait finale.
Karine, j'ai l'impression.
En Ligue des Champions il y a rien à dire. Mais la fin de saison est cataclysmique, c'est-à-dire que Monaco, le dernier match, il est dingue aussi.
En fait, j'ai l'impression, sincèrement, qu'on donne trop de valeur et
infantilise.
Non, on infantilise. Je pense que ces nouvelles Coupes d'Europe, l'Europa League, la Conference League, on est encore dans le souvenir de Coupes d'Europe où il y avait des équipes de C1 qui étaient rebalancées en C3. L'Europa Conference League, désolé, quand tu regardes le plateau, Monaco regarde quasiment tout le monde dans les yeux. On n'est plus dans les anciennes Coupes d'Europe où vraiment tu avais des reversements, où des équipes, c'était régulièrement des équipes de Ligue des Champions qui gagnaient l'Europa League. West Ham a gagné l'Europa Conference League. West Ham.
Olympiakos, c'est beaucoup plus parlant.
Mais West Ham quand même. West Ham, ça fait combien de temps qu'ils n'avaient pas fait un top 10 de Première Ligue? West Ham, ils sont en Championship maintenant.
Tous les exemples sont vrais, mais la réalité, c'est que chez nous, ça fonctionne pas. Effectivement, aujourd'hui, on devrait plus briller parce que, à l'époque, quand Marseille prend l'Atlético de Madrid en finale de Ligue Europa, t'as très peu de chance si tu te fais atomiser 3-0 parce que c'est une équipe Ligue des Champions, l'Atlético. Mais quand tu vois.
Mais t'en as plus d'équipe Ligue des Champions dans cette version.
Mais sauf que la réalité, les clubs français, face à des clubs qui sont abordables, soi-disant, ils y arrivent pas
mieux. Mais attends, Philippe et Louis, il a gagné la Libertadores.
Attends, c'est même mieux que ça. Du côté de Monaco, on nous a mis en avant le CV serial winner de Philippe Luis en Amérique du Sud avec Flamengo. Donc un entraîneur qui était capable, malgré sa jeunesse, de gagner. Moi, j'ai envie qu'il transpose ça en Europe.
En plus, il a fait Libertadores U20, il a fait Libertadores donc senior. C'est un enfant de l'Atlético et de Chelsea. S'il y a deux clubs en Europe
qui savent gagner
et qui ont vraiment
qui ont gagné,
cet ADN de la gagne parce qu'il fait pas le Chelsea de Lampard franchement. Moi, je pense qu'ils ont toutes les armes. Et en plus, ils ont un effectif étoffé avec le nombre de joueurs du centre de formation qui sont en train d'apparaître.
En tout cas, je ris quand même parce qu'il y a quelques messages où on me dit il y a deux personnes qui sont en plein fantasme. Bon, a priori, ça doit être Elton et David, vu que moi, je suis beaucoup plus.
Attends, le fantasme, il est basé sur quoi?
Si on me parle du passé d'anciennes Coupes d'Europe, très bien, mais qu'on regarde le plateau comme Elton a égrené les favoris. Mais moi, je vois pas en quoi, à part peut-être l'Atalanta, et encore, c'est plus l'Atalanta de Gasp.
Ça veut dire quoi? Je vais t'énumérer. Monaco doit baisser les yeux devant Retafe. Monaco doit baisser les yeux devant l'Ajax. Monaco doit baisser les yeux devant Brighton. Excusez-moi.
Non, on te demande pas de baisser les yeux, on te demande de réussir à taper toutes ces équipes.
L'Ajax de l'an dernier,
c'est pas la réalité. Quand là, les clubs français seront effectivement dominateurs et toujours en demi-finale ou en finale de Ligue Europa ou de Ligue Europa Conférence, on en reparlera. Là, c'est précipité.
Il y a une demi-finale de Ligue Europa Conférence pour Strasbourg l'année dernière.
Oui, mais au final, est-ce que tu es extrêmement déçu de ce qui se passe face au Rayo Vallecano? Évidemment que oui.
Ah bah bien sûr, bah c'est pour ça que je te dis qu'en fait les clubs français ont la capacité d'aller la gagner. C'est exactement pour
ça. Oui, mais dans c'est la réalité, sur le terrain, c'est pas encore le cas. Et sur les matchs, sur le contenu des matchs, les éliminations,
moi,
elles sont logiques.
Monaco n'est pas en demi-finale de Conference League, c'est un échec majeur.
Ah d'accord.
Monumental, ouais, comme Evan nous disait.
Ouais, majeur. Majeur.
Bah, on va écouter tout en tout cas Philippe et Louis, parce que lui, le nouvel entraîneur qui vient du Brésil, eh bien, il est extrêmement intéressé par cette C4, mais aussi il trouve que cette compétition est très importante pour le club. On l'écoute au micro de Maxime Tilliette.
Well, for me and for the club is very important.
C'est très important pour moi et pour le club. Monaco doit participer aux compétitions européennes. Nous pensons donc pouvoir réaliser une excellente saison et c'est pourquoi il est également important de disputer des compétitions européennes afin que tous les joueurs puissent avoir du temps de jeu et se livrer à une saine concurrence. Nous pensons pouvoir réaliser un beau parcours, mais nous devons d'abord remporter ce match. Ça va être vraiment difficile. Ils sortent des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Ce n'est donc pas un adversaire facile. Il n'y a plus d'adversaire facile de toute façon en Coupe d'Europe, donc nous avons un énorme respect pour eux et on pense juste à gagner ce match.
Alors messieurs, si j'ai bien suivi quand même votre argumentaire, demain face à Gornik, c'est finger in the nose.
Non, mais non, ça, pas du ça, tout. Ça me plaît ce qu'il dit Philippe et Louis, parce que là tu vois vraiment que c'est un enfant de Cholo Simeone, enfin un enfant footballistique de Cholo Simeone, maîtrise du court terme, à savoir que les gars, demain, on doit s'imposer sur une logique de double confrontation, mais aussi maîtrise du long terme, à savoir que on a des arguments pour briller dans cette compétition et pour exister dans les derniers tours. Donc là, il met de l'ambition.
Non, mais surtout que dans la suite, en fait, de la conf, il identifie vraiment les points forts du Gornik et il a pas juste en fait vu une fiche flash-score. Tu sens que c'est très travaillé. Et tu prends cet adversaire au sérieux. Il a parlé des joueurs techniques au milieu. Il a parlé des ailiers inversés. Enfin, vraiment, moi, il m'a plu sur cette conférence de presse.
Moi, demain 20h, moi, j'ai un intérêt qui est réel autour de cette rencontre.
Donc, ah, mais moi aussi, l'émission. Je vais la regarder avec intérêt. D'ailleurs, on sera évidemment sur RMC. On vous le fera vivre en intégralité. Mais c'est vrai que je vous trouve quand même extrêmement rêveur tous les deux.
Je pense que demain ça va pas être évident.
Mais je ne parle pas que de demain, je parle plus généralement.
Rêveur, ambition,
exigeant. Moi je vais même te dire exigeant. Moi je suis exigeant avec les clubs français sur la C3 et la C4.
Ah bah oui, on est exigeant, mais après il y a la réalité et puis on rentre à la
maison. Karine, au-delà de la Ligue des Champions, et en plus ça a été remporté par un club français.
Mais j'enlève Paris, Elton.
Non, mais je te dis au-delà de la Ligue des Champions. Mais quand tu regardes le plateau des finalistes Europa League, Conference League, j'ai envie de me dire, et pourquoi pas un club français?
Ah, mais moi je suis d'accord, mais enfin, la réalité c'est qu'on n'y est pas, donc il y a une raison.
Bien sûr, mais elle change ta réalité.
Oui.
Et ça, c'est un discours mindset.
Bien sûr. Johan, supporter de l'ASM, est avec nous au 32-16 sur RMC. Johan, est-ce que tu as pris ta place? C'est où? C'est à Istanbul la finale, tu m'as dit?
Istanbul, Beşiktaş.
Très bien. Johan, vu ce que tu as dû entendre de la part des garçons, David et Elton, c'est bon, tu as ta place pour la finale, pour que Monaco joue la finale de la Ligue Europa Conférence?
À partir du moment où on ne va pas passer les barrages, ça va être compliqué de prendre une place pour la finale. Quoi.
Voilà, bah, Johan et Lucie, peut-être. Enfin bon, les barrages, j'espère que ça va bien se passer. Hein. Moi, je ne suis pas aussi défaitiste.
Qu'est-ce qui te rend pessimiste, Johan? Vas-y, dis-moi.
Bah ouais, je suis pessimiste.
T'as gagné en fil, là.
Il n'y a aucune communication, de la part du président, de la part des directeurs sportifs.
Mais tu veux qu'ils disent quoi?
On en recrute en Ligue 2, mais c'est sûr, on recrute en Ligue 2, on va y finir. Hein. Il n'y a plus d'identité dans ce club. On en a ras-le-bol, les supporters de Monaco, ouais, franchement. Hein.
Johan, donc toi, par exemple, parce que c'est vrai que demain, on n'est pas obligé d'être très inquiet, mais toi, tu penses que ça ne va même pas passer, que les barrages de Ligue Europa Conférence, ça va être un stop pour Monaco. Ils ne vont pas être en phase de groupe.
Je ne dis pas que ça va être un stop, mais on est à l'abri de rien.
Ça, donc, c'est différent, ça,
Johan. Coventry, alors Coventry, je ne sais pas à quel niveau ils sont.
Ils viennent de monter en première ligue.
Ouais. Mais on perd de zéro, on est inexistant.
Vous avez gagné en field avant.
Hein?
Donc la vérité est peut-être entre les deux.
Ouais. Moi, après, c'est surtout la politique du club, que ça part du président, directeur sportif. On n'a plus de communication, hein, tu les entends jamais. On recrute de la Ligue 2, on vend nos joueurs. Dès qu'on peut vendre un joueur, on le vend.
Ouais, mais c'est la réalité économique en fait de l'AS Monaco avec le manque de génération. Tu peux pas faire autrement.
Attendez, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Johan, on t'écoute.
Moi, je suis pas d'accord avec ça parce qu'on a un multimilliardaire à la tête du club. À un moment donné, s'il avait envie de remettre un peu d'argent dans le circuit,
mais ça fonctionne plus comme ça en fait. Il comble déjà le déficit d'exploitation. Tu sais que. Écoute-moi une seconde. En fait, le nouveau.
Attends, Johan. tu écoutes David et David après tu écoutes Johan.
Non mais je l'écoute. Le squad cost ratio UEFA plafonne tes dépenses joueurs en fonction de tes revenus. Je te conseille d'aller comparer les revenus de l'AS Monaco par rapport à même des clubs comme Lens, des clubs comme Lyon, des clubs comme l'OM. Les revenus sponsoring, billetterie de l'AS Monaco, c'est 5 fois moins que les revenus sponsoring, billetterie de l'OM.
C'est la même rengaine depuis l'été 2014.
Donc en fait, maintenant, tu ne peux plus, en fait, si tu veux, tu ne peux plus réinjecter à perte. Tu es obligé de devenir une boîte de trading. Tu ne peux plus.
Et le Fener, ils sont même pas en Ligue des Champions. Dans l'absolu.
Mais, en tout cas, ils jouent les barrages.
Tu sais ce que c'est que le chiffre
d'affaires. Tu l'as joué,
t'as fait. Tu sais ce que c'est que le chiffre d'affaires du Fenerbahçe, c'est 245 millions d'euros. Ce serait le 25e chiffre d'affaires européen. Tu sais le chiffre d'affaires de Monaco? Même pas 100 millions d'euros.
Combien, pardon?
Même pas 100 millions d'euros.
Ah oui.
Sans Ligue des Champions. Tu te rends pas compte de la différence?
La société des Belles-Mères, c'est plus de 100 millions d'euros, c'est peut-être même plus que le Fener.
Mais c'est un actionnaire.
J'en peux plus. À Monaco, on est ruiné. Il n'y a pas d'argent à Monaco. C'est ça qui est le constat. À Monaco, c'est l'austérité.
Mais c'est l'austérité. En fait, c'est les nouvelles règles européennes qui te l'imposent, Johan. C'est pas une volonté de l'actionnaire.
Mais Johan, après, effectivement, bon, Ribolovlev a mis moins d'argent, mais l'an dernier, vous aviez quand même une équipe très compétitive. Quand tu vois le dernier match, il est symptomatique. 4-1, tu mènes 4-1 à la pause face à Strasbourg, tu le perds 5-4.
Ça, d'accord. Après tout l'automne, on a perdu tous nos matchs. Le seul match que l'on a gagné, c'est le PSG. C'était une mascarade. Et on peut dire merci à Turpin de ne pas avoir expulsé Camara ce jour-là. On perdait tous nos matchs. C'est bien qu'à un moment donné, notre effectif est surcoté et que nous n'avons pas le niveau. Et nous avons fini à notre place.
Ah bon ? L'an dernier, l'effectif de Monaco valait pas mieux qu'une 7e place ?
Ben, je crois pas.
La déception, c'est une chose, mais Monaco a sous-performé. Après, moi, je suis dans ton analyse, je suis d'accord sur plusieurs points, notamment sur les dirigeants. On en a fait assez, notamment sur Thiago Scuro et ce qu'on en pensait de lui. Sur
Ribolovlev, il a jamais communiqué.
Et sur l'identité de l'AS Monaco, c'est un point qui est abordé, qui est très important.
Je vous invite à regarder le film des 100 ans de Monaco qui a été fait il y a 2 ans.
T'as raison.
Et ce film-là, il représente vraiment l'histoire de notre club. Avec des personnes investies, des personnes qui y sont attachées. Aujourd'hui, ces personnes-là, il n'y en a plus aucune.
Là, c'est des personnes de passage.
De passage, aujourd'hui?
Oui, aujourd'hui, ces personnes-là.
Mais moi, il faut des révolutionnaires, quitte à descendre en Ligue 2 et refaire venir des vraies personnes qui aiment la Monaco.
Moi, je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Honnêtement, je te le souhaite pas.
Oui, c'est jamais une bonne nouvelle de descendre, en Ligue 2.
C'est catastrophique. Mais
non, mais qui te manque? Campora, c'est quoi? C'est Jean Petit, c'est Campora, c'est Bianchieri, c'est ce genre de figure.
Mais toutes les personnes que tu peux voir dans le film. Mais pour le Bordeaux, c'est scandaleux aussi.
Toi, en fait, c'est quoi? C'est l'identité monégasque? C'est quoi? C'est la qualité des recrues? Qu'est-ce qui te manque? Grosso modo.
Un peu tout, la formation, la qualité des recrues.
La formation, il y a.
La diagonale, elle est quand même représentée.
Qui sentent le football, l'impression que quand même, un gars comme Scuro, on n'a pas l'impression qu'il sent grand-chose au football, quoi. Les recrues qu'il fait, mais c'est.
Moi, Johan, malheureusement, j'ai peur qu'en fait, dans ce nouvel environnement réglementaire européen, il n'y ait plus énormément de place pour des clubs comme. Et je le regrette, pour des clubs comme l'AS Monaco. Malheureusement, ça, au haut niveau.
Je l'entends, ton analyse. Mais des fois, je me demande, mais dans les autres championnats, comment ils font?
Et dans les autres championnats, ils ont d'autres revenus, ils ont d'autres perspectives qui sont plus importantes, notamment sur l'expansion de la marque globale, parce qu'on est obligé de parler comme ça.
Monaco, comme dit Johan, il y a quand même un centre de formation à Monaco qui a été très bon et qui continue. Il y a des compétences. Barclaro, il est toujours à Monaco aujourd'hui.
Il est plus suivi.
Mais Monaco, la diagonale t'apporte beaucoup de choses. Bamba, il t'a rapporté 40 millions d'euros.
Mais attends, Bamba, Akliouche, Ben Seyir, c'est quasiment 150 millions.
Donc le centre de formation, il fonctionne toujours.
Bah oui.
Mais Bamba, 40 millions, mais c'est une escroquerie.
Bah, tu devrais t'en réjouir. Moi, j'ai pas envie d'utiliser ce terme parce que, certes, c'est bien acheté, mais.
C'est financier qui parle.
Non, mais je trouve que c'est dur en plus pour un joueur qui a énormément de qualité, qui est pas encore prêt, mais qui a énormément de qualité.
Le marché et les tarifs sur le marché. C'est de la folie.
Ah oui, tu peux pas suivre.
C'est de la folie.
Johan.
Il y a plus de prix, oui.
Oui, il n'y a plus de prix. De toute façon.
Il y a des prix.
Mais je veux dire, il n'y a plus aucune cohérence. Tout le monde coûte une tonne maintenant. Johan, merci d'avoir été avec nous, en tout cas au 32-16. On te souhaite un bon match.
Merci à vous, bonne soirée.
Johan, beaucoup plus positif, on espère.
Ouais, je sais. Mais bon, si on gagne ou deux matchs, peut-être que la mayonnaise va reprendre. Allez.
Eh ben écoute, oh ben tu vois finalement, il te suffit d'une petite victoire face à Gornik et la mayonnaise reprend. Ça c'est beau.
Non, il en faudrait deux, moi, quand c'est difficile, quoi. Peut-être.
Johan, commence à regarder les billets.
Le calendrier de début de saison.
On se voit à Istanbul.
Ça va, Le Havre, dimanche. Ouais. Ça va.
Johan, on se voit à Istanbul. Avec Elton, on se voit à Istanbul.
Johan.
On reçoit Marseille. Et on va à Paris, je crois.
Oui, ben écoute, il y aura déjà Le Havre, un déplacement au Stade Océane. Ça sera ce dimanche, on le rappelle. Et après, il y aura effectivement la réception de Marseille, déplacement à Paris. Belle soirée à toi, Johan, et bon match surtout demain.
Rendez-vous à Istanbul.
Comment?
J'espère que Paris pourra nous recevoir dans les.
Oui, bien sûr. Lors de la troisième journée.
Il a dit trois fois.
Johan, belle soirée à toi. Allez, et on rappelle que demain, sur RMC, coup d'envoi à 20h, Gornik Monaco. Ça sera à suivre évidemment sur RMC. Dans quelques instants, messieurs, on va parler d'une nouvelle génération de neuf cette saison en Ligue 1. Qui attendez-vous le plus? Quel promu est le mieux armé cette saison? Il y en a deux. On vous le rappelle, Troyes et Le Mans. Et puis, libre antenne. On vous attend au 32-16. On est à quelques jours de la reprise du championnat. Vendredi, en ouverture, ça sera Marseille-Strasbourg. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes inquiet pour votre club préféré? Et qui vous attendez encore comme recrue? On vous attend jusqu'à 22h. A tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
On est ensemble jusqu'à 22h. Juste après, il y aura l'afterfoot avec Gilbert Bribois, David Bussmann, Elton Mokolo sont là. On vous lit sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On vous attend également au 32-16. On a vu qu'Elton et David étaient extrêmement ambitieux pour les clubs français en Coupe d'Europe. J'enlève évidemment Paris. Jérôme qui nous dit les deux compères, ils me font penser à tous ceux qui pensaient que prendre le Villarreal d'Emery en LDC était un bon tirage à l'époque. Et Rudy nous dit Karine est la plus lucide ce soir, bien sûr.
Alors là, il est tombé sur la mauvaise personne parce que
les mauvaises personnes.
Sur les mauvaises personnes parce que s'il y a bien une personne, deux personnes qui valorisent le football espagnol, qui valorisent Unai Emery en Coupe d'Europe, bah c'est bien nous.
Qui valorisent Unai Emery tout court.
Bon, ouais, messieurs, voilà. On va continuer évidemment de parler de la Ligue 1. On vous rappelle aussi l'information du jour, c'est que le match entre Paris et Rennes ne se joue plus au Parc des Princes. Il se jouera dimanche à Rennes parce qu'à Paris, il y a eu la canicule. Comme partout en France, d'ailleurs. Mais la pelouse du Parc des Princes est impraticable. Il y a notamment des champignons et donc une décision a été prise. Maintenant, évidemment, on va voir toutes les discussions pour savoir si les deux matchs vont avoir lieu au Rosen Park ou pas. Parce que du côté de Rennes, selon nos informations, pour l'instant, on ne veut pas parler d'inversion. On parle de repli, de solution trouvée au dernier moment, parce qu'on est mardi et le match a lieu dimanche.
C'est vrai que pour organiser tout ça, c'est un barnum, un match de Ligue 1. C'est même pour les supporters, mais les conditions d'accession, la sécurité, tout ça, c'est un budget. Ça
fait quoi pour les loges, les hospitalités? Tu réinvites les sponsors? Comment tu le factures?
Oui, c'est ça.
Le financier qui parle. Moi, c'est les revenus.
T'as raison. Mercredi, dimanche, j'allais dire, c'est très difficile. Évidemment que tu peux le faire, mais c'est pas aussi facile qu'on peut le prétendre, à savoir que tu mets la lumière dans le stade et c'est bon.
Non, mais pour c'est sécurité, moi c'est surtout pour les loges en fait. Comment pour les partenaires, qu'est-ce que tu...
Ok. Bah oui, parce que attention, on parle d'un Rennes PSG double champion d'Europe, donc c'est tout un accueil qui est particulier et donc on fait pas les choses à moitié quoi.
Donc pour eux, du côté de Rennes, c'est les informations que l'on a du club. Ils ne veulent pas polémiquer, mais ils considèrent que les textes en vigueur font que le match retour devrait se jouer aussi et comme prévu au Roazhon Park, parce qu'on parle de raisons exceptionnelles pour la tenue du match dimanche à Rennes. On verra évidemment tout ça tout au long de la soirée.
Sur une bataille juridique.
On va avoir énormément d'informations d'ici dimanche. Il y aura évidemment la question qui sera posée aux acteurs du match dimanche soir. On suivra tout ça de près.
C'est Santa Barbara. Hein.
Et vous aurez toutes les informations sur rmcsport.fr. Mais c'est vrai qu'on a du mal à imaginer que les deux matchs se jouent au Roazhon Park. Mais bon, on n'en est pas là. Dimanche, ça sera bien au Roazhon Park, en tout cas. Et justement, on devrait retrouver un homme, c'est Esteban Le Poll, on le rappelle, qui a été élu meilleur buteur la saison passée. La belle surprise, il était parti d'Angers après la première journée de direction Rennes. 21 buts marqués. Le meilleur buteur, par contre, n'a pas eu droit à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que c'est assez rare quand même. Quand tu as un buteur souvent français en Ligue 1 et qu'il y a une grande compétition, il est souvent convoqué par le sélectionneur. Ça n'a pas été le cas pour Esteban Le Poll. Quel neuf vous excite le plus avant la reprise, messieurs? Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'attentes. Esteban Le Poll, c'était la belle surprise. Est-ce que vous pensez qu'il peut confirmé, continuer à être le serial buteur qu'il a été l'an passé, ou est-ce que vous voyez d'autres neufs qui pourraient émerger, parce qu'on rappelle qu'il y a aussi des neufs qui n'en sont pas. Ousmane Dembélé, la saison d'avant 2024-2025, c'est le meilleur buteur de Paris, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1, mais c'est un faux neuf.
Non, mais c'est un enjeu qui est très important, le fait d'avoir un renouvellement des avancantes, des numéros neuf, entre guillemets, précisément pour avoir une émulation au classement des buteurs, parce que l'année dernière, on a eu deux belles surprises, Esteban Le Poll, Panicelli jusqu'à sa grave blessure, qui est quand même resté deuxième meilleur buteur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'année dernière, c'est pas comme si on a eu un cru qui était extraordinaire, qui était exceptionnel. Moi, je rappelle 2022-2023. Alors c'était d'autres considérations. On était sur un championnat à 38, mais il y avait énormément de buteurs, énormément de neufs à plus de 15 buts. Moi, j'ai envie de retrouver ça. J'ai envie de retrouver une série de numéros neuf à plus de 15 buts. Et donc par rapport aux joueurs qui sont susceptibles de nous exciter, on a évoqué Openda, on a parlé d'Esteban Le Poll. Moi, j'attends beaucoup aussi, même s'il va avoir une réalité un peu plus différente, Ferran Torres en tant que numéro 9, parce qu'il sort de la meilleure saison statistique de sa carrière avec le Barça. 16 buts, il a mis le but qu'on a tous rêvé de mettre en finale de Coupe du Monde. Et au PSG, avec des joueurs extraordinaires, ça doit être une suite logique d'être un concurrent pour le titre de meilleur buteur.
Surtout qu'il va, grappiller des minutes en Ligue 1. Donc oui, pourquoi pas. Moi, le 9 dont j'attends la confirmation, peut-être pas pour le titre de meilleur buteur, mais dont j'attends la confirmation parce que je trouve qu'il est en progrès constant et majeur depuis plusieurs saisons, c'est Lassine Sinayoko.
Qui a signé au Paris FC.
Beaucoup mieux entouré, avec des vrais passeurs, avec du Ilan Kebal, avec du Pablo Pazis, avec du Cole Ocho, avec du Jonathan Ikoné, avec du Moses Simon. Je trouve que dans le pressing, dans la perforation, dans les dribbles, dans la création d'occasions pour lui et pour les autres, vraiment, Sinayoko, c'est un vrai client. Je persiste à penser que le Paris FC a fait un vrai coup entre lui et Pagis, un vrai coup financier et un vrai coup sportif. Et c'est le joueur que j'ai envie de mettre en avant dans cette dynastie des nouveaux numéros 9, parce que c'est aussi un joueur qui a pas mal joué sur le côté et qui a d'ailleurs joué sur le côté en fin de saison à Auxerre. Mais c'est un joueur dont j'attends beaucoup, dans un club dont j'attends beaucoup, avec un actionnaire dont j'attends beaucoup.
De toute façon, on va dire peut-être meilleur buteur aussi, parce que par exemple, du côté de Marseille, Paixão, qui devrait être le numéro 1 au niveau des buts, n'est pas un...
Attention, Karine.
N'est pas un neuf. Aidez-moi, les garçons, parlez.
N'est pas un neuf, mais t'as Amingouiri...
Greenwood n'était pas un non plus.
Ouais, voilà. Donc, le but était davantage démocratisé du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est vrai que du côté de Marseille, Paixão, encore une fois, s'il reste, il peut être un joueur qui peut se mettre en avant.
Moi, j'en ai un. S'il revient... C'est pas s'il reste, s'il revient. Il revient avec la seconde partie de saison qu'il a fait, avec le barrage qu'il a fait.
Je sais à qui tu penses.
Eli Wahi.
Ouais, voilà, je savais.
Dans un environnement qui lui sied à merveille. Et je pense sincèrement qu'il y a peut-être pas 5 clubs en Europe qui conviennent à Eli Wahi. Mais Eli Wahi, avec un entraîneur paternaliste comme Pantaloni, avec un environnement qu'il a apprécié, un joueur si sensible, avec un stade qu'il a poussé, avec l'absence de concurrence aussi au poste, s'il revient relativement tôt dans la saison, et je souhaite vraiment pour le joueur et pour le club que ça se fasse. Ça peut être un sérieux concurrent aussi à la couronne.
On l'a évoqué dimanche, mais moi je pense que l'étape de Benfica était trop haute. En plus, il tombe sur un changement d'entraîneur avec José Mourinho, qui préfère les joueurs un peu plus expérimentés. Et Ivanovic, moi déjà, il m'avait tapé à l'œil sur la double confrontation face à l'OGC Nice l'été dernier. Et moi, je me dis que Lens, c'est un club qui est beaucoup plus en adéquation avec sa réalité de jeune joueur, et que lui, il peut être vraiment l'un des joueurs à suivre cette saison du côté de la Liga, encore plus dans un système d'attaque à deux qui sied beaucoup plus à ses qualités.
Moi, le souci, c'est que je pense que ça va tourner, tu sais, dans cette espèce de... Toi, t'as parlé d'attaque à deux, mais il y a vraiment...
Ouais, attaque à deux, attaque à trois.
Édouard, Sima,
je pense qu'il part un peu derrière,
mais il va croquer des minutes. Ryan Fofana, que moi je trouve très intéressant en préparation. Florian Thauvin, le petit Mesloub, Skoras, t'as quand même beaucoup de joueurs qui vont vouloir manger des minutes, et c'est peut-être ce qui peut le retenir un peu au niveau du classement des buteurs. Après, les Parisiens, t'es pas à l'abri qu'un Gvara ait énormément de minutes et qui remporte l'intimbale, même si ils vont tous, surtout maintenant, maintenant, avec un effectif hyper étoffé, avec l'arrivée de Micah Götze, ils vont tous en fait se manger des minutes. Un joueur qui sera pas du tout en concurrence pour le classement des buteurs, mais un attaquant, peut-être pas un avant-centre, mais un attaquant qui me plaît, moi, qui m'a aussi tapé dans l'œil, c'est Santi Hidalgo à Toulouse. J'adore ce profil, j'adore son sens du sacrifice, j'adore son volume de course. Je trouve que c'est un attaquant hyper intéressant à voir où il va être utilisé. Mais s'il est à la fin des circuits avec Ascou, un entraîneur qui a des velléités, des volontés offensives, j'aimerais bien, moi, le voir en peut-être pas en double-double, mais à plus de 10 buts.
En plus de 10 buts.
J'aimerais bien le voir à 2 chiffres.
La suite d'Emerson, bon, même si Emerson c'était beaucoup plus fragmenté.
Moi, j'aimerais vraiment, en fait, que, voilà, qu'il atteigne le bilan comptable d'un Tahith Dalinga. Je te trouve que ce sera.
Pour moi, ce sera l'exemple à suivre.
Après, il y a des profils, moi, que. Dans les petits clubs,
c'est là où je voulais venir, parce que mine de rien, on a fait du name dropping sur des joueurs, mais principalement.
On est allé un peu plus loin que le name dropping. T'es dur avec nous là quand même. On est allé un peu plus loin.
Non, mais ce que je veux dire, on a cité des noms principalement d'équipes de la première partie du tableau. Et moi, j'ai envie d'avoir des découvertes dans ce que j'appelle la classe moyenne de la Ligue 1, c'est-à-dire les équipes du multiplex qui sont capables de nous faire réveiller des joueurs. Et Esteban Epol, il vient d'Angers. Moi, j'ai envie de voir un Esteban Epol 2.0 qui émerge.
El Ouazani que moi j'avais adoré à Guingamp, qui est un vrai joueur de surface, qui va vite, qui n'a pas réussi à Braga, là où je pensais quand il est parti.
Ça tient sa blessure aussi.
Mais je me suis vraiment dit, franchement, c'est un environnement idéal pour progresser. Et finalement, il revient, on sait qu'il tire les pénalties, donc comptablement, ça peut être intéressant. Après, je vais un tout petit peu parler avec le cœur, mais je suis obligé d'en parler.
Ah bah, je sais, Josh Maja.
Voilà, Josh Maja, c'est un joueur de surface.
Les yeux qui brillent, c'est beau.
Quand il est en confiance à West Brom, quand il a eu un entraîneur pour le mettre en confiance, il a marqué. À Bordeaux, il a eu, en fait, c'est un joueur de période. C'est un joueur de mois ou de trimestre. Quand il est en confiance, quand l'équipe joue pour lui, c'est un super coéquipier. Et là, c'est un joueur super adroit. Après, c'est vrai qu'il a des traversées du désert et qu'il est assez fragile physiquement. Mais Josh Maja,
il avait mis 15 buts en Ligue 2.
Ouais, mais t'as raison. On en a parlé avec Walid et Christophe il y a quelques semaines. C'est le cadeau de la mariée du côté de Dembaba, parce que l'investissement que tu fais sur un Josh Maja économiquement et en termes de projection est quand même très intéressant pour le Havre. On sait que le poste du numéro 9. Alors, t'as eu le run de Soumaré, mais le poste de numéro 9 au Havre, c'est un poste à pourvoir.
Je vais te dire, même un Louis Mafuta, qu'enchaîne les saisons en Ligue 2, il était bon à Curem, il était bon à Amiens, il était bon à Guingamp, et au Mans, dans une équipe qui va peut-être jouer à deux, donc qui est un peu favorable aussi, un système un peu favorable pour les attaquants de pointe, on a vu Rabillard, on a vu Damgay l'année dernière qu'on marquait régulièrement, moi j'ai envie de le voir. C'est-à-dire que, certes, après il y a des équipes où je trouve qu'au poste de numéro 9, il y a un peu un trou. Trois Ben Taïeb, je comprends pas, il n'y a aucun club de Ligue 1 qui est parti.
Il y a la réalité économique. Aujourd'hui, investir sur un numéro 9 en Ligue 1, c'est compliqué.
Mais il y a même.
C'est ce qui coûte le plus cher.
C'est la vitrine du magasin. C'est la vitrine du magasin. Et dès que t'as pas la vitrine, c'est beaucoup plus compliqué.
Ajorque, un an de la fin de son contrat, pareil. Est-ce qu'Ajorque, en fait, va rester à Brest? C'est ce qui va. Est-ce qu'il reste à Brest? Il a un an de la fin de son contrat.
Pour Brest, qu'il va rester.
Oui, mais doublure de luxe, en fait, à Lyon, à Marseille, qui pourrait peut-être se rabattre sur, avec Grégory Lorenzi, se rabattre sur ce type de profil. Il y a des équipes. Lorient, en fait, a perdu Pagy Sélieng.
Arrête de donner des noms parce que ça énerve Nicolas. Nicolas, il doit passer des très mauvaises vacances, qui nous envoie des tonnes de messages. Il est colère. Et en plus, j'ai l'impression qu'il n'entend pas très bien ce qu'on dit, parce que d'après vous, Openda, le Paul Thauvin, au niveau international, mais il devrait être en sélection sans marquer. Je ne comprends pas le message, Nicolas. Après, il nous dit que vous avez parlé également de Thauvin et Tolisso, que vous voudriez revoir en équipe de France. Pas du tout, Nicolas. Il y a quelques soucis. Et Nicolas, je crois qu'en fait, ce qui l'énerve à la base, tu vois, c'est cette inversion, ce match entre Rennes et Paris. Parce qu'il nous dit, il nous envoie plein de messages. Hein. Si Rennes était fair play, ce serait déjà réglé. Bizarrement, ce serait le PSG à la place de Rennes. On exigerait, il écrit exagéré.
C'est sympa, Nicolas, dans la vie.
On exigerait que lui fasse l'effort. Si vous ne me croyez pas, demandez à Daniel et appelez Daniel. Bon, non, Daniel a autre chose à faire a priori, mais il fera une petite apparition dans l'afterfoot ce soir.
Non mais attention, Nicolas, Rennes est aussi dans son droit. Rennes a raison de s'appuyer notamment sur les textes juridiquement parlant, parce que même par rapport à tes supporters, tu peux pas dire autre chose. Tu peux pas dire ouais bon les gars, bah finalement bah, on va inverser et en gros ça va se passer comme ça, en sachant qu'il y a des supporters qui avaient pas prévu d'aller au Roison Park. Tu leur dis bon bah les gars, rappliquez. C'est pas aussi évident,
et
Nicolas.
Oui. Et pour faire le package, vu que vous avez donné une douzaine de noms, et bien il est pas content encore, Nicolas. Tu vois, on va finir avec Nicolas. S'il y avait de vrais grands buteurs potentiels, vous auriez donné un top 3 et basta. Mais non.
Moi, il y a un club. Moi, il y a un club qui est une académie.
Ils en donnent beaucoup.
Une académie du numéro 9 qui historiquement a aligné et enchaîné les numéros 9, Trezeguet, Falcao, Mbappé,
Monaco.
Ben Yedder, et bah là, je trouve qu'il y a trop de cuisiniers. J'ai du mal entre.
Bah, il y a Balogun, entre c'est le cuisinier numéro 1.
Il partira, il est sûr de part. Abeline, Birette, Brunner. Je trouve que ça.
Non, mais
ça.
Birette, on espère qu'il va retrouver le chemin défilé, parce que tu vois.
Bah oui, mais il est encore dans l'effectif. Donc, en fait, historiquement, le Monaco, qui est une vraie école de numéro 9, nous a habitués à avoir un peu à commencer la saison avec un peu plus de certitude, mais là
on est pas mal de points d'interrogation. Ça tient au Balogun qui est sur le départ, parce que ça reste le quatrième meilleur buteur de Ligue 1 l'année dernière.
Et en plus, il a fait une bonne Coupe du Monde aussi, donc évidemment, on imagine qu'il y aura
jusqu'à l'intervention du bureau Oval.
Effectivement. Mais bon, ça,
il n'est pas responsable, le pauvre.
On l'espère.
Le carton rouge a été emmené, il n'est pas responsable. Et Dom qui nous dit, est-ce que c'était une crêpe ou une galette, Karine? Alors non, je ne mange pas à l'antenne, je me suis juste étouffée. Au mieux, je bois. Et de l'eau, bien sûr, hein, je précise, évidemment. On est ensemble sur RMC jusqu'à 22h. Juste après, il y aura l'afterfoot dans quelques instants. On va parler des promus, on va parler de Troyes, on va parler du Mans. Quel est le promu le mieux armé pour cette saison? On parlera également de Witsel, qui a été présenté aujourd'hui à Nice. Et Maxime Tilliette a eu le bonheur de l'interviewer. Et puis, on vous attend également au 32-16 pour nous dire, est-ce que vous êtes confiant pour la saison de votre club préféré? Ou est-ce qu'il y a encore des ajustements à faire? Quel joueur vous voudriez voir signer chez vous? On est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Karine Galli. 21h44 en direct du studio Roland Courbis avec David Glusman, avec Elton Mokolo, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 et aussi au 32-16. On vous attend une libre antenne. On va parler des promus, qui est le mieux armé, Troyes, Le Mans. Et puis, vous pouvez nous parler de votre club qui va commencer sa saison à partir de vendredi, on le rappelle, sur RMC. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes inquiet? Ou quel renfort vous espérez voir signer dans votre club de cœur? Messieurs, des petites informations aussi. Axel Witsel, qui s'est confié en longueur au micro de RMC Sport. Il a signé chez les Aiglons, vous le savez. Maxime Tilliette l'a rencontré. Le milieu belge a 37 ans. Il a envie d'être un leader. On rappelle qu'il est arrivé libre, qu'il était à Gérone l'an dernier. Le club est descendu en deuxième division, mais il a beaucoup joué avec le club espagnol. Il a cette capacité de jouer en défense centrale ou au milieu de terrain. A priori, ça serait plus au milieu cette saison, parce qu'en plus, il doit compenser malheureusement la très grave blessure d'Abergel. Witsel, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'on fait déjà des comparaisons avec Dante. Parce que il y a l'âge et il y a la possibilité qu'il devienne un leader. Et parce que lui aussi a parlé évidemment de Dante, ancien coéquipier d'ailleurs de Witsel.
Tu te souviens quand je me suis un peu moqué de Roger Ricord lors d'une émission et tu m'as soufflé dans les bronches, et bah t'avais complètement raison, parce que Gauthier Hein, Axel Witsel, avant Laurent Abergel, vu les moyens de Nice, moi je trouve ça très intelligent. Voilà, c'est trois recrues très pertinentes avec une identité francophone Ligue 1 qui correspond complètement au projet de Pantaloni et Nice. Et voilà, pour l'instant, c'est pertinent.
Witsel, on va l'écouter, le Belge, au micro de Maxime Tilliette aujourd'hui.
Je pense plus au milieu de terrain. Donc, la saison dernière à Girona, j'ai joué tous les matchs à ce poste-là en tant que numéro 6. J'ai toujours ce rôle un peu d'hybride, parce qu'à l'Atlético, j'ai joué en tant que défenseur central, mais plus avec une défense à 3. Donc, c'est vrai que je peux faire les deux. Après, je me sens toujours plus à l'aise au milieu de terrain. Le trois quarts de ma carrière, j'ai toujours joué à ce poste-là.
Par rapport à son âge, le milieu de terrain, c'est un poste très important. Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'il joue en sentinelle? Est-ce que tu penses que c'est mieux qu'il aide en défense? Parce que, ben voilà, il y a aussi eu beaucoup de soucis la saison passée à Nice avec des problèmes défensifs, avec le pauvre Dante qui a été beaucoup blessé, qui là, maintenant, a pris évidemment sa retraite.
Non, mais j'oublie pas aussi qu'il y a eu des problèmes au milieu de terrain.
Il y en a eu partout, de toute façon.
Non, mais il y avait des problèmes au milieu de terrain. Et moi, je pense que, déjà, par rapport au timing de son arrivée, il arrive à quelques jours de la reprise de Ligue 1, mais aussi par rapport au caractère du 11 de départ. Non, faut le stabiliser au milieu de terrain avant d'envisager une expérience en défense centrale. Et Witzel, par rapport à sa saison du côté de Girona, même s'il faut rappeler, il est descendu avec Girona. Moi, j'ai envie de le voir davantage au poste de milieu de terrain.
Enfin, il est descendu. Moi, Tsigankov, je le prends dans pas mal de clubs de Ligue 1 tous les jours.
Tsigankov, ce qui est terrible, c'est qu'il est hors d'atteinte pour Nice.
Non, mais complètement. Non, mais surtout que en charnière centrale, il y a quand même pour l'instant du monde, il y a Ndiaye Mbaye, il y a Antoine Mendy, il y a Abdelmoumen qui va revenir.
Enfin, Youssouf, à la base, il joue au milieu, hein.
Oui, tout à fait. Donc, mais là, il a joué essentiellement dans une défense à trois.
Et on espère qu'il va retrouver d'ailleurs son niveau aussi.
Central gauche aussi. Donc non, il y a déjà du monde. Mais pour moi, c'est un profil super intéressant.
Des informations concernant Nice tout de suite. La bonne nouvelle, c'est que Nice aurait trouvé un accord avec Hambourg pour son attaquant Terem Moffi. Donc l'idée, c'est qu'évidemment Moffi parte en Allemagne, ce qui pourrait permettre en plus aux Niçois d'avoir un petit peu plus de sous pour recruter Elie Wahi, parce que tu en as parlé juste avant. C'était une belle histoire d'amour de quelques mois, mais en tout cas, Wahi et Nice, Wahi et le public, Wahi et Claude Puel, même s'il n'est plus là, ça avait fonctionné. Donc, ils veulent absolument faire revenir le buteur. Terem Moffi four à Nice. Hein.
Ah bah oui, alors là, mais c'est un raté monumental.
Il avait coûté une tonne, hein.
Mais il avait coûté une tonne. À l'époque, c'était justement le cadeau de la mariée pour avoir une envolée de Nice, notamment par rapport à ses objectifs.
Et c'est quoi, 26 millions, non?
C'est plus, c'est 32.
32.
Et c'est plus. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé entre des résultats collectifs qui ont été décevants, des performances individuelles qui ont été parfois, qui ont été proprement catastrophiques.
Il était blessé.
Sa blessure a vraiment tué. Sa grave blessure, l'état d'esprit. Donc c'est un mariage raté entre les deux parties. Et donc c'est pour ça qu'il faut y trouver une porte de sortie. Et moi, j'aime beaucoup cette idée du retour de Wahi, parce qu'il a été impacté émotionnellement par ce court passage du côté de l'OGC Nice. Il en avait besoin pour se relancer.
Pour moi, Moffi, c'est Ineos. Ça résume absolument le passage Ineos à
l'OGC. T'as raison, si tu veux faire un symbole.
Ah oui, d'accord. Pour toi, c'est le club qui, soi-disant, à un moment, voulait investir, voulait avoir une équipe compétitive, après, donc avait dépensé beaucoup de sous, mais finalement, le mariage n'a pas marché.
À l'époque, il y avait aussi Marseille qui était sur les rangs, et c'était l'un des joueurs bankable du côté de la Ligue 1, et on aurait pu penser que ça aurait été bien pour que Nice puisse continuer à grandir, et ça ne s'est pas passé comme prévu.
20 buts en 4 ans. Alors évidemment, il y a la grave blessure, mais c'est vraiment des statistiques faméliques.
Après, il a des buts marquants. Il a un but notamment lors de la victoire au Parc sous Farioli.
Ouais, quand à un moment donné, il se joue de, je crois, c'est Skriniar, et il met un super but.
Du gauche, ouais.
Ouais, du gauche.
On le voit vendredi soir.
Septembre 2023, ouais.
Un vendredi soir, ouais.
D'accord. On dirait l'agent, tu sais, qui te revend son joueur.
Non, pas du tout. Mais
toi, t'as une mémoire d'éléphant. Les comptes
Boccolo
ne sont pas bons, là, les garçons. Hein, pas bons du tout. Là,
comment ça, les comptes ne sont pas bons? Évidemment que les comptes ne sont pas bons du côté de Moffi.
Clem qui nous dit, est-ce qu'il y a des bonnes affaires pour les clubs de Ligue 1 en Ligue 2? Pourquoi ils ne vont pas chercher du côté de Saint-Etienne? Mais Saint-Etienne ne vend pas.
On a eu ce débat avec David. Pour la classe moyenne de Ligue 1, ça coûte trop cher.
Ah bah oui, Saint-Etienne ne vend pas, il garde ses éléments.
Non mais ça coûte trop cher.
Taoufik Ben Taïeb, qui va partir pour 4 millions, parmi les meilleurs joueurs de Ligue 2, il est trop cher.
Ben oui,
Giovanni Verzini, qui est à International Espoir, à Pau, qui est un attaquant ultra prometteur.
T'as évoqué le cas Bardelli,
Ragoubert, qui était en Ligue 2. C'est trop cher.
Mais on avait vu Stas aussi. Hein.
Mais Saint-Etienne a refusé des offres. On connaîtra jamais les montants, mais bien au-dessus de 20 millions d'euros pour Stassin l'année dernière.
Ah oui, du PFC notamment.
Donc Saint-Etienne qui a gagné, on rappelle, ses deux premiers matchs de Ligue 2 dans une entame de saison qui est très bonne, aujourd'hui a les moyens de garder ses joueurs, et évidemment il y a des clubs de Ligue 1 pour la majorité qui n'ont pas d'argent à mettre.
Lassine Meignan-Pavé, ça va être 10 millions plus.
Et à l'auditeur qui vient d'envoyer le message, je conseille de regarder les clubs entre la 12e et la 18e place, rayon Mercato arrivé. Et les investissements, il va tout de suite comprendre.
C'était C'était Gaëtan qui nous a envoyé.
Tu vas tout de suite comprendre sur les investissements. Si tu as 5 millions d'euros en dépenses nettes, c'est déjà très bien.
Et tu te souviens, David Ventier qui nous disait que l'investissement sur Arthur Piéfort, le milieu de Westerlo, c'était un investissement conséquent. Et on est déjà, en fait, dans cet ordre de grandeur, autour des 5 millions d'euros.
On accueille Valentin, supporter angevin, qui est avec nous au 32-16. On rappelle qu'Angers commence une nouvelle aventure avec un nouvel entraîneur. C'est Stéphane Gilly qui a rejoint le club avec un mercato vraiment intéressant d'ailleurs.
Ça, et on l'a
contrairement voilà, à l'an dernier où Angers n'avait pas pu recruter par rapport à la DNCG. Là, c'est vrai que c'est assez intéressant. Bonsoir Valentin, merci d'être avec nous.
Bonsoir à tous.
Salut Valentin.
Salut Valentin.
Nous, ça va très bien. Et toi?
Bah écoutez, moi ça va bien. Hein. Mon club s'est maintenu en Ligue 1 l'année dernière.
Tranquillement.
Avec autorité.
Avec autorité, et du coup, j'ai validé mon défi et mon périple de faire Angers-Lourdes à pied.
Ah mais oui, mais bien sûr, mais bien Valentin.
C'est Angers-Arsenal.
Oui.
Tu nous as appelé plusieurs fois sur RMC, t'es un fidèle auditeur, et t'avais effectivement ce challenge à relever. Comment ça s'est passé?
Eh ben, ça s'est passé nickel, je l'ai fait, je suis parti de lundi de la Pentecôte, j'ai fait Angers-Lourdes en 18 jours, soit 31,5 km par jour, soit 567 km.
Non mais c'est magnifique.
En plus, Valentin, t'as fait
alors la Dallange-Vigne, totalement ça.
Exactement.
Bien sûr.
C'est le Pierrick Capel de la bicyclette.
Mais oui, c'est un hommage à Pierrick Capel qui a pris sa retraite et qui devient d'ailleurs, j'ai vu, consultant sur Ligue 1+.
Consultant pour Ligue 1+, exactement.
Ouais. En plus, c'est une belle journée parce que t'es en passe de très bien remplacer Jacques Écommier en allant prendre peut-être un des meilleurs latéraux gauche de Ligue 1, Joseph Kaloulou, la grande lignée des
Kaloulou. La famille Kaloulou, mais c'est quand même incroyable.
Pierre, Gideon, Aldo.
Ils sont quatre.
Ouais, c'est Pierre, Gideon, Aldo, Joseph. Voilà.
Et évidemment, le plus connu, c'est Pierre.
C'est Pierre.
Valentin.
Je dirais Gideon pour d'autres raisons évidentes.
Ah, parce qu'il joue avec.
République démocratique du Congo. demi-finale.
Oui, cœur, quoi.
Ouais, demi-finale. Bah non, je fais F actuellement. Qui a fait demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations dans la famille?
Bah, c'est Gideon.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Il a raison.
Oui.
Mais,
qui a joué la Coupe du Monde? Je vous le donne en
C'est inarrêtable.
C'est
Gideon. Il va déborder sur l'after, là.
Valentin, par rapport à la saison d'Angers, est-ce que tu es assez serein par rapport à ce changement d'entraîneur? On a l'impression qu'il colle bien à l'ADN d'Angers. Il y a du temps, c'est familial. On l'a vu comme invité, d'ailleurs, sur RMC cet été. Il avait l'air très content de ce nouveau challenge. Le premier match, on rappelle, ça sera contre Lille.
C'est ça, le premier match contre Lille dimanche. Oui, je suis assez content de ce que j'ai vu au niveau du recrutement cet été. On a pris ce qui était de mieux, je veux dire, au niveau du gardien de but. Alors évidemment, hein, si on me demande à choisir, j'aurais préféré garder Hervé Coffi. On remercie évidemment la DNCG qui l'année dernière nous a refusé le prêt avec option d'achat à 500 000 euros.
Et la Bolascari aussi.
Et la Bolascari également, oui, exact. Le plus drôle avec la Bolascari, c'est quand même qu'il a fait un entraînement, que le maillot est sorti, et il y a un supporter angevin, c'est pas moi, qui avait...
On se souvient, de cette histoire.
En plus, la Bolascari, en flocage, il a pas dû payer de balles, tu vois.
Non, celle-là, elle est pas mal, quand même, pour que deux jours après, le joueur parte. Et évidemment, quand on a joué contre Brest, la Bolascari a marqué contre nous. Ça, la boucle est bouclée. Je suis content, c'est de la confirmation et du retour de Vanden Bomen. Ouais. J'espère que cette année, ça va être plus intéressant. Je pense que l'année dernière, il était en manque de temps de jeu. C'était un petit peu compliqué.
Ouais, il sortait d'une période compliquée à Amsterdam.
À l'Ajax. Donc là, en plus, il arrive libre. Donc c'est un très bon coup pour nous. Notre attaquant qui vient de Braga en prêt également, c'est un très bon coup.
Moi, j'aime bien.
Ouais. Je trouve que c'est un très bon coup. Donc ça va être intéressant. Le style de jeu va être, je pense, plus offensif que ce qui était le cas du style du jeu.
Oh bah c'était pas mal quand même avec du jeu.
Le style du jeu.
Oui, bah oui, c'était calculé évidemment. Donc, mais je pense que le jeu va être encore un petit peu plus porté offensivement parlant. De ce que j'ai vu des matchs de préparation, alors moi j'ai vu que le match de ce week-end contre le Paris FC.
D'ailleurs, très bonne préparation. Vous avez gagné tous vos matchs sauf un.
Sauf un contre Le Mans, exact. Donc, des retours que j'ai eu de supporters, c'est vrai qu'on est très porté vers l'offensif. Alors après, c'est de la préparation, donc c'est normal aussi de mettre des choses en place. Donc, on va voir. On va voir également sur les départs. On sait que là, Jacques Écommier va très très probablement partir avec.
Vous avez bien le vendre, hein.
Parce que oui, on va bien le vendre, mais surtout c'est que quand on l'a récupéré, il y avait beaucoup de supporters de Bordeaux qui nous disaient que Écommier n'était pas un bon joueur.
Dont moi. Énorme surprise.
Il y a pas que toi.
Énorme surprise.
Il y a des personnes qui se reconnaîtront.
Exactement. Donc on verra. Et la grosse incertitude également, c'est le départ ou non de Beydim. Lui a demandé à partir. Est-ce qu'il va partir ou pas? J'espère que non, parce que c'est un très très bon joueur.
Super joueur. Et le petit Bermond, comment tu l'as trouvé en préparation, qui est en prêt à Lens? Parce que c'est vrai qu'il était assez prometteur sur le côté.
J'ai eu des bons retours, des échos que j'ai eu de la part de copains qui eux ont pu faire certains matchs de préparation. J'ai eu des bons retours, donc à voir. Après, est-ce qu'il va être titulaire ou pas, parce que va y avoir le retour de ce bail qui n'a pas fait un match de préparation à part un petit peu de temps de jeu ce week-end contre le PFC. À voir s'il sera titulaire ou pas. Mais des échos que j'en ai eu très intéressants, et également un joueur peut-être à suivre, c'est le petit Diatta, qui était au milieu de terrain et qui a marqué ce week-end.
Il était déjà apparu en Ligue 1 en fin de saison, non?
Il était apparu, alors je dis peut-être une erreur, mais sur le dernier match l'année dernière contre Brest, mais je peux me tromper, qui a l'air assez prometteur. D'ailleurs, dans la rotation, il est même passé devant Marius Courcoul, qui du coup est parti là en prêt en Belgique à la Louvière. Donc il va être intéressant à suivre. Il va y avoir également après...
T'as Prosper Peter aussi qui était déjà apparu.
C'est ça, qui lui va être, je pense, cette année numéro 2, vraiment. L'année dernière, il y avait une alternance entre Peter et Machine en début de saison, et après avec Ouyalipou quand il est arrivé.
Il était prêté d'ailleurs, Leroy Machine, je crois.
Oui, il est prêté aux Pays-Bas avec option d'achat.
Et le Aruna, c'est Jibirin,
c'est Jibirin Aruna.
Jibirin, oui, c'est
qui
ça.
Qui a été très intéressant en début de saison, qui est d'ailleurs pourrait partir. On sait que Bruges avait déjà essayé en janvier l'année dernière et est revenu à nouveau cet été pour essayer de le récupérer. On verra, il avait été beaucoup blessé après en deuxième partie de saison, il avait très peu joué. Mais il avait été prometteur l'année dernière quand il était rentré. Donc il avait mis notamment un très beau but lors du match contre Nantes à Angers où on avait gagné 4-1. Donc il y a des choses intéressantes à voir. Le retour de Belkebla fera du bien également. Là pour l'instant il est blessé, il
va prolongé en plus, hein, prolongé.
Prolongé en plus, ouais. Et ça c'est une belle surprise parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il reste.
Ça montre à quel point le club bosse bien aussi, parce que t'as la capacité à inscrire dans la durée Belkebla.
Laurent Boissier, il va falloir le mettre en avant, hein, Laurent Boissier, parce que c'est vrai qu'il a peut-être pas un nom ronflant. Lui, il bosse pas avec la data, il bosse qu'à l'œil et au réseau, et finalement il fait du très bon boulot.
Et il fait du bon travail. Et on rappelle qu'il connaissait Stéphane Gilly, et c'est aussi comme ça que l'arrivée de Stéphane Gilly a été assez rapide et fluide. Merci beaucoup Valentin d'avoir été avec nous. On te souhaite une très bonne saison. On rappelle, premier match, réception de Lille. Messieurs, on a été pris par le temps, donc un mot, parce que je voulais qu'on parle des promus, mais le problème c'est que vous êtes bavard, mais vous êtes excellent, donc on n'a plus le temps.
En tout cas,
le promu, il y en a deux, trois. Champion de Ligue 2, derrière Le Mans. Le Mans, il y a des moyens. Il y a eu évidemment beaucoup d'informations autour du Mans parce qu'ils ont réalisé affaire nationale Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Parce qu'il y a aussi des gens connus qui sont des investisseurs dans le club, Novak Djokovic, Thibaut Courtois, etc. Pour vous, quel est le promu le mieux armé cette saison pour essayer de se maintenir entre 3 et Le Mans ?
Le Mans.
Le Mans.
Le Mans, Momentum. J'adore Patrick Vidéra, même si j'aime bien...
Très bon coach.
J'aime bien Stéphane Dumont qui a fait un travail remarquable à Guingamp et à Troyes, mais je ne comprends pas comment Troyes peut commencer cette saison avec une équipe plus faible que l'année dernière.
Il y a trois recrues, on rappelle, à Troyes, mais vous aurez l'occasion évidemment d'en parler.
Le Mans, ça peut faire jurisprudence Clermont 2022. Une équipe euphorique et qui s'inscrit dans la durée du côté de la Ligue 1.
Merci beaucoup, messieurs, on est pris par le temps. Merci Elton, merci David, merci à Samuel et Polo qui est aux manettes de l'émission. Dans quelques instants, l'After Foot avec Gilbert Bribois. À tout de suite.
Génération After.